Verveine, Verveine.
What's happening? What's happening?
Hey. Underground.
Verveine Underground.
Eric s'intelligente pour contrôler la discothèque.
20h, 22h sur Europe 1.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre.
Ça, c'est grave!
Je suis de retour avec ma sous-culture. Ouais, sauf que c'est nous le futur, hein?
C'est nous le futur!
Bonsoir et bienvenue dans Verveine Underground. On se retrouve chaque soir sur Europe 1 de 20h à 22h avec des invités qui viennent se raconter en musique. Ce soir, je reçois l'homme sans qui je ne serais pas là, le sensei, le mentor, le chef des Jedi, le maître Yoda, journaliste, comédien, animateur radio, télévision, DJ, l'élégant, l'incroyable Ariel Wiesmann. Comment ça va?
J'ai l'impression que tu parles d'une entreprise de travaux publics.
Non, je parle de toi. Et déjà,
ça me fait très plaisir
d'être là.
Pour commencer
l'émission, je tenais à te remercier parce que sans toi, je ne serais pas là, tout simplement.
Non, sans moi, tu serais peut-être mieux encore, et même sans doute, parce que l'intelligence était là, le charisme, tout était là, tout était réuni, et tu serais sans doute encore plus haut.
Ariel Wiesmann, tu as plusieurs jobs, mais tu as un prénom, un nom. Est-ce que tu as des surnoms comme Fally Ipupa?
J'ai plusieurs nicknames, comme on dit, plusieurs surnoms, justement, donnés par... souvent par mes fanatiques, mais en ce moment, je préfère qu'on m'appelle Aigle.
Aigle ?
Voilà.
Ok, Aigle, pas de problème. Bienvenue sur Europe 1, Aigle.
Merci.
C'est quoi les autres nicknames Aigle ?
Fally Ipupa du Cap La Merveille, El Maravilloso, El Marabi, El Pibe de Oro, El Pichichi, El Niño del Mundo, El Magnifico, El Fenomeno, El Fantastico, El Excellentissimo, El Bellissimo, El Toreador, El Matador, El Cantador, El Professor, El Protagonista. Empereur 243K, Aigle.
Aigle.
Ah, j'adore.
Ariel Wiesmann, est-ce que tu as d'autres identités, d'autres surnoms?
Alors moi, j'en ai plein. J'ai Taraté, c'est toi qui me l'as donné, ça.
Oui.
J'ai Karaté aussi. Ouais. J'ai Kung Fu Volant, j'ai Tortue sur le dos, j'ai Dents écarlates, j'ai Moustache lissée, j'ai... pantalon aux chevilles, enfin, bah, y en a plein. Hein.
Est-ce qu'on peut avoir dans la vie plusieurs vies, Ariel Wiesmann?
On peut avoir plusieurs vies, on n'a qu'une âme, et cette âme, elle a besoin de se réincarner plusieurs fois dans un corps ou dans une incarnation comme ça du quotidien. Donc le métier, ça permet de la renouveler, mais aussi la spiritualité peut parfois lui faire une sorte de bain de jouvence, l'amour aussi ou le dévouement aux autres.
Ariel Wiesmann, quand on parle de métier, c'est très dur de qualifier ton métier tellement tu en as fait. Aujourd'hui, c'est quoi ton métier?
Alors aujourd'hui, mon métier, c'est la première fois de ma vie que je n'ai qu'un métier, et c'est d'être entrepreneur. Et donc, j'ai fondé une sorte de chaîne de magasins, que j'ai pas fondée d'ailleurs, que j'ai pris pour la France, qui s'appelle Miniso, et qui rend toutes les filles à cheveux bleus, roses, verts, dingues. Et donc, pour une fois, véritablement, je suis concentré sur une seule chose, mais sinon, tout au long de ma vie, j'ai fait des choses qui se présentaient, parce que je pense qu'on est ce qu'on devient. On se trouve face à des opportunités, et en fait, c'est le moment de se dire est-ce que j'en suis capable? Et en fait, on se pose pas tellement la question, on fait ces choses-là, on avance, on les apprend, et puis un jour on les abandonne, c'est triste, c'est comme une maîtresse. Et bon, comme pendant longtemps j'étais pas 100% monogame, je ne suis pas mono-métier non plus.
Eh bien, moi, je pense que tu as toujours eu un seul métier, tu te trompes. Je pense que ton métier, ça a toujours été apprenti.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, très incomplet, très dans cette position un peu amusante qui consiste à dire, je suis là pour comprendre et le faire. Et peut-être je suis un outsider, alors peut-être vous trouverez un peu de charme à ce que je le fasse un peu moins bien que les autres, mais différemment. Mmh. Et je pense que là-dessus, on est un peu commun. Hein, on se retrouve. Et en fait, c'est une position très intéressante parce que elle ne fait pas qu'on se sente supérieur à qui que ce soit. Et donc, on garde un tout petit peu de ce qui est le plus précieux dans la vie, c'est-à-dire l'humilité. Parce qu'en fait, si on perd l'humilité, alors à ce moment, on est complètement paumé. C'est la drogue.
La drogue qui mène à quoi?
la drogue qui mène à la nourriture.
Et qui mène à quoi d'autre?
Au sexe.
Après?
Et après, bah, au vide. Au vide transsidéral, au smartphone. Vous imaginez un monde où vraiment le smartphone et la bouffe seraient les deux? Eh bien, on y est.
On y est, ouais.
Non, c'est assez simplement de perdre cette espèce de pellicule d'humanité, d'humilité, de se sentir un tout petit peu moins bien que les autres, de leur être redevable tout le temps de quelque chose, même si socialement, c'est des gens qui ne sont même pas même loin de votre niveau. Mmh. De se sentir redevable envers eux, c'est quelque chose qui donne une assise. C'est une chaise à trois pieds, mais il faut savoir s'asseoir.
Alors, Lisman, au micro d'Europe 1, il y a ce chiffre 1. Est-ce que ce chiffre 1, c'est finalement pas la négation de l'humanité?
Le chiffre 1 n'appartient qu'à Dieu. Mmh. Le chiffre 1, c'est l'unité de tout. C'est-à-dire que les Grecs, les Babyloniens, tous les peuples païens ne croyaient pas du tout en le chiffre 1. Ils pensaient que tout était animé de plusieurs forces. Et donc, lorsqu'ils regardaient leur prochain, ils ne se disaient pas « c'est un humain comme moi qui fait partie d'une unité ». Parce que ce monde a été créé par un Dieu unique, ce monde... les mondes sont uniques, mais le Dieu est unique. Les mondes sont multiples, mais le Dieu est unique. Et donc, la reconnaissance de l'autre dans sa fraternité, par exemple, eh bien, c'est uniquement dans un univers où Dieu est un.
Est-ce que vouloir être numéro un dans la vie, c'est pas une forme de malédiction?
Vouloir être numéro un, c'est pas très intéressant. C'est certainement pas très intéressant parce que finalement, le numéro un. Il ne fait pas quelque chose de différent du numéro 2. Par essence, ils font un peu la même chose. Ce qui est intéressant, c'est de faire des choses différentes, d'en faire beaucoup, et de faire une pyramide de numéro 2, de numéro 3, qui donne une personnalité qui, elle, est unique.
Est-ce que l'égalité, ça existe, Ariel Wiesman?
L'égalité existe théoriquement. Évidemment, elle n'existe pas dans les faits. Et le fait qu'elle existe théoriquement donne des droits à tout un chacun. Et ces droits sont ce qu'il y a de plus important. Donc l'égalité n'existe pas. Les dés sont pipés, tout est biaisé. Mais il y a des droits. Et ces droits, en fait, il faut savoir aussi les interpréter. C'est-à-dire que lorsqu'on a des droits, il faut les agrémenter de devoirs, évidemment. Mais il faut aussi ne pas en faire une espèce de force un peu aveugle, de coup de pression. Il faut que les droits, ça soit qu'on ait des droits et que ça soit presque comme le droit de regarder un beau paysage, comme le droit de respirer, d'être joyeux. Il faut que ça soit une qualité morale d'avoir des droits.
Est-ce que les droits, Ariel Wiesman, il faut les prendre ou les demander?
Les droits, il faut les prendre. Quand ils ne sont pas là, il faut les prendre. Mais malheureusement, en général, lorsqu'on n'a pas de droits, on n'a pas de force non plus. Donc on ne peut pas les prendre.
Wiesman, quel est le droit le plus précieux que vous êtes allé chercher dans la vie?
Je crois que le droit le plus précieux, c'est le droit à la plasticité, c'est à changer. Mmh. C'est pouvoir changer. C'est-à-dire pouvoir, en une minute, que vous soyez oublié de ce que vous avez fait avant, que vous puissiez vous régénérer, même par rapport à vos parents, par exemple. C'est très difficile de se développer à côté de ses parents, parce qu'à un moment, ils disent « Eh, mais moi, je me souviens, quand t'étais petit, t'étais comme ça. » C'est comme quand vous sortez avec la femme avec qui vous étiez depuis 25 ans. Elle a une façon de vous regarder qui fait que vous n'allez pas vous inventer dans la soirée. Donc, je pense que le droit de se trahir un peu soi-même, de se mentir un peu, c'est un beau droit, ça.
Est-ce que s'inventer, c'est pas un but dans la vie?
En tout cas, c'est une très belle distraction. Je sais pas si c'est un but, parce que en fait, en s'inventant, on se trouve. C'est comme les Grecs pensaient que la statue, elle est à l'intérieur du bloc de marbre. On n'est pas en train de créer à partir du bloc de marbre. On enlève ce qui n'est pas bien et la statue sort. Et donc, en fait, la vie, elle est un peu comme ça. C'est en s'inventant, en fait, on trouve ce qui n'est pas inventé, c'est-à-dire ce qui est soi.
Et maintenant qu'on est père de famille, qu'on a l'amour inconditionnel pour Dieu, est-ce qu'on peut avoir le même amour inconditionnel pour chaque personne, à savoir ses enfants?
Oui, l'amour, c'est marrant parce que quelqu'un m'a posé cette question ce matin quand il a appris que j'avais 5 enfants. C'est une femme qui était enceinte et c'était son
et
premier enfant.
Et non, c'était
enfant.
Moi, pardon.
Non, non, c'est une femme qui était enceinte et qui m'a dit, mais est-ce que moi je vais avoir le premier, est-ce que ceux d'après je vais les aimer autant? Je lui dis, mais évidemment. Parce qu'en fait, quand par exemple, je vous donne ce qui est là dans ma main, un téléphone, une fois que je vous l'ai donné, je ne l'ai plus. Tandis que si je vous donne de l'amour, j'en ai encore. C'est pareil pour la connaissance. Je vous transmets de la connaissance, je l'ai encore. C'est marrant parce que finalement, le monde numérique, il est comme ça aussi.
Ouais.
Vous envoyez un fichier à quelqu'un, vous l'avez encore. C'est une autre dimension. C'est le don qui n'est pas irréversible. Et donc ça, c'est intéressant. Et je pense que oui, donner de l'amour, eh ben on en a encore après. Encore.
Ariel Wiesman, quand on a travaillé à Globe, qu'on a travaillé à Actuel, à Nova, qu'on rêvait le futur dans les années 80-90, et qu'on y est à ce futur en 2022, est-ce qu'on ne le trouve pas éclaté au sol ?
On le trouve éclaté au sol, on le trouve hors de portée de nos moyens. On le trouve en fait hyper décevant en ce qu'il est très protocolaire, c'est-à-dire protocolaire au sens où, je ne sais pas si vous avez déjà eu la curiosité de lire des forums qui parlent de bugs informatiques. Mmh. Il y a des gens là qui ont quand même une intelligence complètement différente de la nôtre. C'est à peu près comme si on voyait des insectes échanger des messages. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'intelligence hyper implacable, complètement fermée, et où en fait on se rend compte que les vrais enjeux ils sont là. Le type qui a perdu son mot de passe pour la sécu, il est vraiment très très perdu socialement. Et les gens qui sont complètement isolés devant des ordinateurs avec cette espèce de capacité d'être hyper à l'aise dans des trucs qui sont complètement obscurs, dans des mondes comme celui où vous étiez tout à l'heure lorsque vous aviez votre masque et que vous me disiez que vous étiez enceinte.
Oui, mon masque de femme enceinte. Oui. C'est mon préféré.
Non, mais c'est vrai que ce monde de gens un peu isolés, un peu obsessionnels, le monde qui a fait des Elon Musk, des Zuckerberg, ce monde-là, il est en train de prendre le pouvoir. Nous, on est un peu des Alzheimer et eux, c'est des Asperger et ils vont nous dominer.
Quand on arrivait après les 30 Glorieuses, on pensait qu'on allait forcément décliner. Mmh. Et là, on voit qu'un nouveau monde est en train de naître. Il y en a également un qui est en train de mourir. Lequel ?
Je pense qu'en fait, les mondes, ils continuent leur chemin d'une certaine manière. Mais c'est d'autres gens qui portent certaines valeurs. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent paraître complètement insignifiants, légers ou bien complètement déconnecté de l'envie de connaissance, de l'envie de morale, de l'envie de beauté, etc. Et ce n'est pas vrai, en fait, du tout, parce que quand on les rencontre, on voit qu'il y a une recherche, il y a une exigence. Donc, en fait, je pense que la technologie a fait qu'il y a une certaine classe que je viens de décrire qui est un tout petit peu dominante, etc. Mais il y a encore des gens qui ont envie de connaître, qui ont envie d'explorer l'esprit, qui ont envie de lire, qui ont envie d'échanger des choses, mais peut-être même plus qu'avant encore. Donc le passéisme, en fait, il n'est pas intéressant là-dedans. Il y a de plus en plus de gens finalement intéressants. Moi, j'en vois partout.
Un pays où on trouve des gens intéressants, c'est l'Afrique du Sud, notamment en musique.
Ouais.
Ariel Wiesman, premier morceau de la playlist, c'est un morceau qui s'appelle Ameno, Amapiano, de Goya. Alors, Menor
voilà,
et Nectunez.
Voilà, l'Amapiano, c'est un style en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a été un des grands pays de la house. Et il y a en Afrique du Sud des tas de bandes de gens, des tribus complètement incroyables, urbaines, quoi, avec des looks incroyables. Et un DJ de house en Afrique du Sud, c'est quelque chose de dingue. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une technique incroyable, une intuition, comme s'ils jouaient vraiment d'un instrument à percussion. Et souvent, il y a des instruments autour d'eux. Les sets sont dingues.
Eh ben, on écoute ça. On vient d'écouter un petit morceau d'Amapiano, choisi par Ariel Wiesman. DJ toujours ou pas Ariel Wiesman ?
Oui, toujours, ouais. Malheureusement, les deux dernières années n'ont pas été très cool pour les DJ.
Parce qu'il y a eu quoi, le passage au Serato, au numérique?
Non, il y a eu le passage à vide.
Ouais.
Vraiment. Non, mais il n'y a rien eu, il ne s'est rien passé. Et puis, le temps que les gens retrouvent véritablement le chemin, se sentent rassurés pour danser, pour écouter de la musique, pour qu'on retrouve un peu ce truc-là. Ben en fait, c'est comme les dix plaies d'Égypte. Les ténèbres s'arrêtent, paf, c'est les épidémies. Les épidémies s'arrêtent, c'est les furoncles.
Les dix plaies de Diplo.
Voilà, c'est les dix plaies de Diplo, exactement. Comprenne qui pourra.
Yeah. Comment on fait la fête aujourd'hui?
Ben on fait la fête, je pense, en envoyant des textos sur des groupes WhatsApp où il y a, je ne sais pas, 100 personnes.
Ouais.
Et en leur disant, chez moi, ça fait 40 mètres carrés, mais vous êtes tous les bienvenus.
Ouais.
Je pense que de plus en plus, les gens, c'est vraiment plus là-dedans qu'ils ont envie de faire la fête, c'est-à-dire juste d'accueillir chez eux. Bon, si après, il y a des tâches, il reste des gens ivres morts qu'on n'arrive pas à sortir. Mais une vraie fête, pour moi, c'est ça. C'est des gens d'un seul coup qui se retrouvent juste en un point et il y a besoin de pas grand-chose, en fait.
Les clubs, ça fait plus trop rêver.
Non, les clubs... Mais en fait, les clubs, c'était un truc de ringard.
Ouais.
À l'origine, les clubs, c'est les années 70, Castel, Saint-Tropez, machin. C'était pour les gens un peu riches et ringards.
Mmh.
Et puis, ça a eu un passage à vide. Et c'est revenu dans les années 80, en se disant, les bains, le palace, la flamboyance du disco. Mmh. Et puis après, il y a eu encore un petit passage à vide. Et là, il y a eu la musique électronique, voilà. Bon, en fait, il y a toujours un petit fond ringard dans le club. Je veux dire, aller en boîte, ça fait vraiment... ce soir, je vais en boîte. Ouais. C'est fini.
Je vais en métro.
C'est fini. Il faut pouvoir dire, je sais pas... je vais à une fête, il y a un rendez-vous à tel endroit, on sait pas trop où on va. Ouais. Les gens, c'est ça ce qu'ils apprécient aujourd'hui.
Et puis même cette notion de club, aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas en voyant les réseaux sociaux, que c'est des endroits... de moins en moins safe pour les femmes. Y a des trucs atroces qui circulent, des comportements dégueulasses.
En Angleterre particulièrement, où il y a même des gens qui injectent directement des produits avec des seringues aux femmes. Il y a le
ça
GHB.
Ça arrivait à Nantes aussi récemment. Ouais.
Beaucoup. C'est-à-dire que si vraiment on est un clubbeur aujourd'hui, il faut avoir la main sur son verre tout le temps. Parce qu'en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir dans son verre. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens... Moi, ça m'est arrivé. Il y a plein de gens à qui c'est arrivé. Ben voilà, on boit un petit truc et...
On passe le bonjour à Roberta, la Mexicana, et on écoute...
Tout à fait.
Lil Nas X sur Europe 1.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boosters black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing.
On vient d'écouter Lil Nas X, Old Town Road, remixé par Young Thug Remix. Sur ce morceau, deux extraterrestres, Ariel Wiesman, Lil Nas X et Young Thug. Pourquoi ils sont aussi géniaux?
D'abord parce que, en fait, la country music, ça vient pas de nulle part. C'est quand même un truc extraordinairement fusionnel. Et en fait, quand on commence à s'intéresser à la country, on se rend compte que ça porte aussi bien Johnny Cash que des artistes trumpistes. C'est une vaste galaxie et c'est vraiment la chanson de l'homme solitaire. Et donc, Young Thug, c'est en plus un gay à l'intérieur... Pas Young Thug,
Lil Nas X,
c'est en plus un gay à l'intérieur du système hip-hop. Young Thug, c'est encore une personnalité complètement incroyable. Et ensemble, je trouve que c'est extraordinaire. La chanson qu'il a faite là, et puis toute l'œuvre de Lil Nas X, je trouve que c'est... ça me sidère de grâce, de beauté, de justesse. Et je trouve que, même si le rap maintenant commence à être un peu vieux, commence à être un peu institutionnel, il y a de temps en temps des choses comme ça qui en sortent et qui sont vraiment étonnantes.
J'ai eu la chance de m'entretenir avec Young Thug et il disait qu'il était, au même titre que Prince, un multi-instrumentiste, sauf que lui, c'était sa voix. Et absolument. En fait, quand on écoute Young Thug, ce qu'il arrive à faire avec la technologie et sa voix, c'est autant de mélodies et de variations que pouvait le faire un multi-instrumentiste.
Alors, j'ai un copain qui a passé une nuit avec Young Thug. Mmh. Donc, ils étaient à Londres. Donc, il a fait son concert. Et puis, après le concert, ils sont allés avec 14 Rolls au McDo. Mmh. Et ensuite, ils sont rentrés dans un studio. Dans le studio, quelqu'un a mis un instrumental. Et Young Thug est assis, comme ça, devant le micro, avec les yeux fermés. Et de temps en temps, il dit... Et il laisse passer des blancs comme ça. Et ensuite, on lui repasse le truc. Et dans les blancs, il ressort encore un autre truc. Et ensuite, et ainsi de suite, jusqu'à tout remplir. Et une fois que tout est rempli, il écoute. Il dit, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et il recommence. Et une fois que tout est rempli, il apprend tout par cœur. Mmh. Et tout est improvisé.
Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un génie.
Un génie total. Et tout ça dans une espèce de demi-sommeil. Moi, j'ai toujours admiré comme Apex Twin raconte que tout ce qu'il avait fait dans ses débuts, qui était génial, il le faisait au moment où il s'endormait. Mmh. Et y a un truc comme ça, la musique, ça a vraiment un rapport avec le sommeil. C'est un truc à la limite entre la veille et le sommeil.
Et le rapport avec la transe ?
Le rapport avec la transe, alors là, ça, la transe, c'est très différent parce que c'est vraiment passé au-delà même de l'éveil. C'est un éveil plus. Mais la transe, moi, je n'ai observé la transe qu'une seule fois dans ma vie et c'était à Cuba. Et je dois dire que c'est assez incroyable parce que finalement, quand on est dans une pièce qui est complètement fermée et qu'on a des percussions qui se répondent l'une l'autre, on a l'impression qu'en fait, c'est l'air qui vous compresse de plus en plus. Et il y a un moment où les limites lâchent complètement. Et on voit des gens qui ont 80, qui sont blancs. C'était vraiment des réunions afro-cubaines. Mmh. Des gens qui sont blancs d'ascendance espagnole, galicienne, depuis des Celtes, quoi. Et puis des Africains vraiment descendants des Yoruba. Et les deux sont l'un en face de l'autre dans une espèce de transe. Il y a forcément quelque chose, on se dit, ouais, ça existe.
Ariel Wiesman s'interroge aussi sur le rapport entre la puissance de la musique et de la religion.
Ouais. Alors, moi, je viens d'une culture marocaine, juive, où, en fait, dès qu'on est enfant, on prie, mais c'est prier plus, c'est-à-dire qu'on doit savoir chanter exactement les bons airs. On a un patrimoine musical qu'on partage avec la mosquée, qu'on partage avec le monde arabe, avec le monde berbère, avec le monde andalou du 15e siècle, du 16e siècle. Et donc, forcément, pour nous, prier et chanter, c'est quelque chose de très, très connexe. Et donc, même lorsqu'on lit les textes, qu'on les étudie, qu'on les décortique, on les chante en quelque sorte. Et en fait, les mots n'existent que parce qu'ils sont chantés. Il n'y a pas le mot plat comme ça, ça peut ne vouloir rien dire. Quand on lit, par exemple, le texte biblique, quand on lit la Torah en public, en fait, on doit connaître les notes sur chaque lettre. Mmh. Et c'est une science, c'est un art passionnant.
C'est une science, c'est un art, c'est quoi ?
C'est une façon d'essayer de retrouver le sens original des choses par leur son.
Est-ce que ça peut paraître naïf comme ça, la musique a ce pouvoir de réconciliation ? Je ne parle pas de la musique dans le terme industriel, je parle de la musique dans le terme de science, de notes qui peuvent toucher l'âme et qui peuvent finalement faire oublier la réalité.
Bien sûr, mais on doit pleurer ensemble, on doit danser ensemble, on doit se toucher, se rapprocher. Et je pense que, par exemple, pour ce qui concerne moi, ma culture marocaine, il est évident que j'ai tout à voir avec quelqu'un qui a partagé mes origines musicales et qui est d'une religion différente. Et peut avoir avec d'autres qui n'ont pas part à cette espèce de délice de volupté orientale. Moi j'aime ça quoi. Et je pense que oui, la musique elle arrive à réunir des gens qui sont complètement opposés les uns aux autres. Et on voit que plus la musique est occidentale, pour moi le maximum de la musique occidentale c'est le heavy metal quoi. Et moi, elle est vraiment rassembleuse, quoi. y a quelque chose quand même qui vient de l'Afrique du Nord, des peuples un peu plus roots.
Et la musique celte dans tout ça, parce qu'elle a ce pouvoir aussi, la musique celte.
Moi, je suis sûr que la musique celte a des racines très, très profondes, que ce n'est pas simplement la base de l'Europe, c'est aussi de la récupération. Mais les Celtes, c'est des Kabyles, c'est des Berbères, en quelque sorte.
Il dire ne dira pas le contraire, paix à son âme. Mm-hmm. On écoute Shankar Family, I Am Missing You, choisi par Harry Lisman sur Europe 1. On vient d'écouter Shankar Family, I Am Missing You. Et dans un instant, on va parler de David Bowie. Dans la playlist d'Ariel Wiesman, il y a Modern Love. Ariel, tu as rencontré David Bowie.
Oui.
Raconte-moi.
Bon, en fait, c'était un de ses albums pour lequel, à l'époque, vraiment, les maisons de disques avaient beaucoup d'argent. Et donc, ils avaient sélectionné quelques journalistes pour aller s'entretenir avec David Bowie à New York et écouter avec lui son nouvel album. Donc, moi, j'étais là. Et j'étais hyper, hyper ému de rencontrer David Bowie, parce que pour moi, David Bowie n'avait pas de réalité. Mmh. C'était quelque chose de tellement... Et je m'assois, ils me disent, je vous préviens, vous n'avez qu'un quart d'heure. Vous savez, c'est les attachés de presse américaines qui sont souvent des femmes très, très impressionnantes, comme ça. Mmh. Et puis...
Avec des lunettes ou pas ?
Non, mais, pas de lunettes, mais avec vraiment beaucoup
des bagues.
Avec du poids.
Des bagues comme ça.
Oui, un peu des bagues et un peu du rouge à lèvres, mais beaucoup même. Ouais. Voilà.
Du rouge à lèvres qui sent.
Oui, voilà.
C'est ça.
Oui, oui. Et à la fin, on les embrasse. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et donc, au bout d'un quart d'heure, je me suis rendu compte qu'une demi-heure avait passé. Au bout d'une demi-heure, une heure. Et puis, en fait, on est resté 2 heures ensemble. Et ça a été un entretien qui était à l'époque pour le magazine qui s'appelait... C'était le magazine de la FNAC.
Smuts.
Mucht.
Ouais, Smuts.
Mucht. Mucht. Ouais. Et il faut que je retrouve le nom quand même. C'est honteux. Smuts. Et donc, lorsqu'il est venu à Paris 2 mois plus tard pour son concert, il m'a dit, il a fait dire par une attachée, j'aimerais bien qu'il soit là, etc. Et après, on a passé la soirée ensemble. Et
alors, c'est là que ça commence.
Un peu amis. Voilà.
Je veux connaître tout de cette soirée, tout de suite.
Non, c'est en fait quelqu'un qui, je pense que David Bowie était quelqu'un qui était fondamentalement préoccupé par le rapport au divin caché dans tous les événements de la vie. Mmh. Et c'est de ça qu'il parlait beaucoup. Et c'était quelqu'un qui vous donnait une importance incroyable. Donc il avait compris vraiment le step principal qui était l'autre est plus important que moi. Mmh. C'est quand même bien.
Bowie.
Bowie.
Bon, je suis désolé. Oui. Oh là là, j'ai fait ça.
Bon, oui.
Ah oui. David Bowie était aussi bipolaire.
Ouais.
Ça, on le sait très, on le sait peu. Quand il a créé, par exemple, Ziggy Stardust, c'était un acte de survie pour lui.
Ouais.
Parce que sa famille était, la moitié était déjà en internat, et lui savait qu'il allait basculer du côté de la folie. Il a dû créer cet alter ego.
Ouais. Ben, je pense que c'est quelqu'un qui gérait. Cette espèce de rapport à quelque chose d'extérieur à lui qui l'envahissait de temps en temps en se créant des personnages qui accueillaient cette folie, quoi. Donc Ziggy Stardust accueillait la folie que lui n'arrivait pas à assumer comme homme de tous les jours. Et c'est ce qui a donné son génie. Mm. Je pense qu'il y a beaucoup de génies comme ça. Je pense T-Rex était comme ça à l'époque.
Kanye West. Est-ce qu'on peut en parler de Kanye West, en fait ? Est-ce que son génie est comparable à celui de Bowie ?
Je pense que Kanye West, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup plus que Bowie. Parce que moi, le Bowie que j'ai connu était quelqu'un plutôt de solaire et qui semblait avoir résolu pas mal de problèmes. Moi, j'ai l'impression que Kanye West, il rentre dans la complexité. C'est que le début d'une espèce de spirale où on n'a pas l'impression qu'il est en train d'apprendre la sagesse. Mais en tout cas, il vient d'un déséquilibre qui est intéressant et qui lui a donné énormément de talent, sans aucun doute.
Je trouve qu'au-delà de la bipolarité, il y a un point commun entre Bowie et Kanye West, c'est qu'ils incarnent parfaitement leur temps et leur époque, et ces changements.
Oui, et Bowie avait quand même un truc, c'est qu'il précédait son temps. Et aussi, à l'époque de Bowie, on ne pouvait pas dire Bowie est un artiste de rock, parce que le rock à l'époque, c'était quelque chose d'un peu lourd, d'un peu bourrin. C'était pas non plus. Il n'était pas reliable à un style. À un moment, on a parlé de glam rock, de machin. Mais Kanye West, c'est un artiste de hip-hop. Donc, ça veut dire, c'est beaucoup plus délimité et peut-être un petit peu moins mystérieux du coup.
C'est pas tout à fait vrai, parce que c'est aussi un mec qui est dans la tech. C'est un type qui fait du gospel. C'est un type qui fait de la soul, qui fait de la dance.
C'est
aussi.
Justement parce qu'il y a cette prison du hip-hop, cette prison mentale qu'il a essayé de s'en affranchir. Et quand il fait effectivement le gospel, il est obligé de passer par l'idée d'une espèce de régénération par Dieu, etc., qui est fausse, qui est juste du décor. Mais musicalement, ça produit des résultats extraordinaires, et surtout le happening de voir tous ces... Parce que le gospel est quelque chose... On parlait de la country tout à l'heure. Le gospel, la country, le blues, le flamenco, tout ça, c'est des choses hyper importantes. C'est vraiment le cœur de peuples qui sont... qui se sentent une mission sur Terre, les tziganes, les descendants d'esclaves, et qui produisent peut-être les musiques les plus belles du monde. Et donc, se rattacher au gospel lorsqu'on vient du hip-hop, qui finalement est devenu une espèce d'industrie, c'est intéressant, c'est bien de faire ça.
Comme quand le rock était devenu une industrie et qu'il y avait David Bowie, on écoute Modern Love. On vient d'écouter Modern Love de David Bowie, choisi par Ariel Wiesman. C'est quoi l'amour moderne, Ariel ?
Ah, l'amour moderne. L'amour moderne, normalement, la vraie modernité, ce serait que l'amour ne soit pas limité à, par exemple, la forme d'un corps face à moi, c'est-à-dire de se dire « lui, il est beau, elle est belle ». C'est d'aller plus loin que ça, et c'est de pouvoir faire en sorte que tout le monde n'est pas loin de l'autre, quoi. Ça, ce serait bien, ce serait l'amour moderne. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que de plus en plus, on voit que, avec Instagram, avec tout ça, les gens ont des goûts très très précis, veulent exactement telle chose. Ils sont excités par telle chose parce qu'elle reflète une chose que les autres veulent, ce qu'on appelle le désir mimétique. Vous désirez pas quelque chose parce que c'est bien, mais parce que les autres le veulent. Et malheureusement, l'amour ne peut pas s'exprimer de manière pure lorsqu'il est déterminé par ce genre de critères-là. Et donc, l'image a pris la place du cœur, quoi.
Comment est-ce qu'on sait qu'on a trouvé l'amour dans la vie ?
En faisant l'amour. En sentant qu'à travers la peau, quelque chose passe. Et le lendemain, dans sa journée, en revoyant ça, en le revivant, et aussi en se disant, j'ai envie de lui parler là, j'ai envie de prendre un train, j'ai envie de ne rien faire pendant un an avec elle, voilà, ou lui.
Donc l'amour, c'est un processus chimique ou mental ?
Non, c'est un processus du cœur. Le cœur, c'est une force complètement à part. Ce n'est pas une force cérébrale, ce n'est pas non plus une force physique. Le cœur est là, en fait, parce qu'on ne peut pas le définir. On l'a mis là, en haut, à gauche, on se dit c'est ça le cœur. Mais en fait, c'est l'énergie qui absorbe et recrache et fait circuler.
Ariel Wiesman, on parle d'amour, on va également parler de problèmes. Chaque soir sur Europe 1, Olivier Delacroix essaie de trouver des réponses aux problèmes des auditeurs. Et on a un petit jeu, je vais vous soumettre un extrait de ce qui s'est passé dans la libre antenne d'Europe 1. Et vous allez me dire ce que vous auriez conseillé. On commence avec Patrick.
Moi qui suis un amateur de lait, qui ai toujours vécu à la campagne, je ne trouve plus du lait parce que le lait est imbuvable. Moi je sais qu'il y a 20 ans en arrière, je cherchais du lait et comme on allait tout le temps en vacances là-bas, une fois dans l'année, je prenais du lait, je vous parle de ça il y a 20 ans en arrière. Et à chaque fois, il était bon une fois sur trois. Le reste du temps, deux fois sur trois, il avait un goût de pourri.
Ah bon ?
Je le mettais dans l'évier. C'est-à-dire, je ne le buvais pas, je le jetais. Et un jour, j'ai dit, j'avais encore mon père, j'ai dit, mais c'est pas possible, le lait, il est bon une fois sur trois, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus comme avant.
Patrick, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à ce Patrick Ariel Wiesmann?
Ben moi, je fermais les yeux et chaque fois qu'il disait le lait, je pensais le lait de ma maman. Mmh. Parce que je pense qu'il parle de sa maman, là, mmh. vraiment. Et d'ailleurs, à la fin, il dit à son papa, mais qu'est-ce qui se passe avec le lait de maman? Il est plus bon. Et donc, c'est juste une personne qui est perdue et qui a besoin d'être allaitée aujourd'hui. Mmh. Donc, qu'est-ce que je peux lui conseiller? Fais-toi des amis et ouvre une fromagerie.
Et on chante le lait et l'eau.
Je chante l'eau et le lait, je chante le miel du Gâtinais, je chante la vache contrée, les mammifères de Poitiers. Le veau est l'ennemi du lait, dans les représentations picturales, mais l'eau partage avec le lait, les faveurs du public hexagonal. Je chante le lait et l'eau, les jeunes scouts qui partent à vélo, la forme liquide nourrie de mots, la gourde que l'on porte dans le dos. Je chante l'eau et le lait, ma panse se réjouit, je suis au cœur du vrai, je vois clair dans la nuit. On peut se dire je t'aime sans frime, sans recours au Sidi Ibrahim. Mano, en lampant une bonne gorgée d'eau. Le vin est lié aux vilaines gens, aux soirées de Bacchanal. Mais se saouler aquatiquement, mon pote, c'est pas banal. Comme Gros Minet Titi, comme le sumo et son sushi. Dans le lait prend source la vie, et c'est dans l'eau que cuit le riz.
Évidemment. Important de chanter le lait, Ariel.
Oui, c'était une chanson totalement improvisée et je dois vraiment faire une dédicace à Tequila Tex, le DJ, qui m'a dit qu'il a commencé un set récemment devant vraiment beaucoup de monde avec cette chanson.
Avec l'eau et le lait.
Oui, l'eau
et
le
lait. Un classique.
Oui, et je salue évidemment Édouard Baer.
La vie avec Édouard Baer, c'est une des mille vies d'Ariel Wiesmann.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette époque?
En fait, la connexion de deux esprits qui doivent être reliés vraiment très lointainement à leurs racines et qui, même si elles sont très différentes l'une de l'autre, perçoivent ce que va dire l'autre, perçoivent ce que pense l'autre. Et donc, ça donnait des improvisations comme ça, où c'était tellement naturel qu'on avait l'impression que c'était écrit à l'avance par une seule personne, alors que c'était improvisé par deux.
J'ai une mission dans la vie, c'est que Ariel Wiesmann et Édouard Baer refassent des choses ensemble. J'ai essayé un petit peu avec Édouard et là maintenant j'essaye un petit peu avec Ariel. Qu'est-ce qui vous a séparé et qu'est-ce qui pourrait vous réunir?
Ce qui nous a séparé, vous savez, c'est comme quand deux droites ne sont pas complètement parallèles, elles s'éloignent progressivement. Et puis je pense qu'Édouard, il avait vraiment besoin de faire des choses pour lui, quoi. Pour qu'on connaisse Édouard Baer, et il le méritait parce que son talent est immense. Moi, j'étais plus à l'aise en faisant une carrière de journaliste ou faisant des choses qui m'étaient proposées l'une après l'autre. Lui, il avait vraiment besoin d'être Édouard, le comédien, et c'est très bien parce qu'il l'est devenu, et il l'est devenu avec énormément de succès, donc c'est très bien. Maintenant, refaire des choses avec lui, mais moi je fais des choses avec qui on veut, il n'y a pas de problème.
Édouard appelle Ariel, Ariel appelle Édouard. On va écouter un morceau des Sparks avec Adam Driver et Marion Cotillard, choisi par Ariel Wiesmann, c'est We Love Each Other So Much. Ça vous correspond à tous les deux?
Évidemment.
On vient d'écouter les Sparks dans Verben Underground. Les Sparks, pour Ariel Wiesmann, est-ce que c'est pas le plus grand groupe de musique de tous les temps?
Sans le moindre doute.
Alors, qui sont les Sparks?
Alors, les Sparks sont deux frères, les frères Mael, qui sont originaires de Los Angeles, qui sont ancrés vraiment dans la culture du surf, des films hollywoodiens, etc., avec un humour très Lou Beach et un sens musical très symphonique et et en même temps très 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 rock, et qui ont eu une carrière incroyable. Aujourd'hui, ils ont presque 80 ans tous les deux, mais ils se produisent tous les soirs, ils sont encore en tournée en ce moment. Et c'est pour moi le plus grand groupe de pop et de rock de tous les temps, avec dans chacune de leurs paroles, il y a un message, il y a une invitation à la drôlerie, il y a une modestie, je suis toujours complètement épaté par ce qu'ils font. Et j'ai eu la chance, bon, de pouvoir faire deux morceaux avec eux. C'était pour moi un honneur énorme. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai adhéré au fan club, j'avais 14 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à les suivre tout le
Comment
temps.
Comment ça se passe, une session de studio avec les Sparks?
Ben là, c'était via Internet. Ah. C'est-à-dire qu'on s'est vu à Paris.
Internet.
Et donc, ils ont ajouté leur partie. Et ça, c'est dommage. Ça aurait été vraiment bien d'être en studio ensemble.
La puissance des Sparks, c'est qu'aucun album ne ressemble à l'autre. Et c'est un peu pareil pour Ariel Wiesman. Aucune vie ne ressemble à l'autre. La nouvelle vie, c'est Miniso.
Ouais.
Alors, c'est quoi Miniso?
Miniso, en fait, c'est une marque qui est nippo-chinoise, japonaise et chinoise à la fois, qui propose des objets design pour le quotidien, inspirés vraiment de la culture pop asiatique, un peu quelque part entre Emma, Muji, mais en beaucoup plus coloré, beaucoup plus pop, qui propose une vision de la vie complètement, presque absurdement joyeuse, quoi. Et je dois dire que depuis qu'on a ouvert la première boutique et qu'on a eu cette espèce de folie, on ne pensait pas du tout que Miniso serait connu en France, puisqu'il y a quand même plusieurs milliers de boutiques dans le monde. Quand c'est arrivé en France, on s'est rendu compte qu'énormément de gens avaient passé des vacances dans des pays où il y avait des Miniso, ils n'avaient pas oublié. Et on a été débordés par cette affluence. Et aujourd'hui, on a fait 9 boutiques, on a fait 9 boutiques dans les FNAC aussi, 8 boutiques dans les FNAC. Et voilà, on continue une espèce d'aventure en un an et demi complètement qui nous dépasse, qui est industrielle et qui est en même temps assez intime parce qu'on voit des gens qui ont un rapport très très particulier à cette marque. C'est vraiment intéressant.
Donc grâce à Miniso, Ariel Wiesman est passé de l'underground à la verveine.
Exactement, ouais. Mais j'ai toujours aimé la verveine, ouais. De toute façon. Les Marocains aiment la verveine.
Ce qui me fascine dans l'aventure Miniso, au-delà de la réussite et que je salue parce que c'est un projet sublime, c'est le fait d'être encore allé apprendre.
Ouais, alors ça, en fait, de temps en temps, moi je donne ça comme conseil dans la vie parce que je commence à être un peu plus vieux, je donne ça à tout le monde. S'il y a un truc qui ne vous plaît pas ou qui vous a tenu à l'écart pendant très longtemps, vous vous êtes dit « ça, c'est vraiment pas mon truc », essayez de le faire une fois. Moi, par exemple, je n'ai jamais rempli un seul papier où il y avait des chiffres. Je n'ai jamais rien compris à l'argent. Je n'ai jamais ouvert, et je ne mens pas, ouvert un truc qui venait de la banque. Je ne connais pas tout ça. Eh bien, un jour, je m'ennuyais dans un de mes boulots et j'avais droit à une formation et j'ai décidé d'aller apprendre la gestion. C'est vraiment le contraire de moi et en fait, ça m'a plu. Et donc, c'est très marrant. C'est comme ça, parfois, qu'en se mettant des petits coups de pied comme ça, on peut arriver à réenchanter un peu sa vie.
On a un point commun, c'est qu'on ne porte jamais de montre.
Oui.
Pourquoi?
Mais d'abord, pourquoi porter une montre aujourd'hui? C'est gênant. Ça vous met à la portée de toutes les Kairas qui veulent vraiment... Ils adorent les montres en ce moment. Je ne sais pas si vous savez.
Non, je ne suis pas au courant.
Ah ben, à Paris, des gens meurent pour une montre. Oui.
D'accord. Mais ça, c'était bien avant qu'on ne portait pas de montre.
Oui. Et ensuite, il y a une chose, je ne sais pas si... Je pense que vous êtes aussi un peu comme moi. Moi, j'essaye d'être vierge de certains gestes dans la vie. Alors, par exemple, avoir une montre, jamais. Ça veut dire que je ne l'ai pas fait une fois.
Une ceinture?
Ceinture de sécurité dans les avions, jamais. Je fais toujours semblant, etc. Enfin, il y a trois, quatre petits trucs comme
les
ça.
Les bijoux?
Bijoux, non, j'aime bien bijoux. J'aimerais bien...
Bijoux.
J'aimerais vraiment, vraiment... Ça, c'est un truc. J'aurais vraiment aimé avoir tous les bijoux des rappeurs, genre LL Cool J, etc. Passer au moins 3-4 ans à porter ça, quoi.
Mais après la gestion, on peut aussi faire ça.
Ouais, c'est faisable. Mais là, je vais être un peu ridicule. Non, mais quand j'étais tout jeune, j'aurais bien aimé... pour moi, vraiment, le côté un peu torse nu avec 4 gros trucs en or 14 carats bien pourris... Je trouve ça magnifique.
Je pense que le succès de Minnesota a aidé.
C'est possible, c'est possible. Et je pense qu'il y a un truc que je ne voulais jamais faire, et c'est vous qui m'avez poussé à le faire finalement, et je l'ai fait, c'est le permis de conduire, ah bah et je viens de l'avoir.
Ben, on remercie Royal Speed.
Ouais. Non, on ne les remercie pas.
Ariel Wiesman, on va se quitter.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour 2022? Déjà, pourquoi est-ce qu'on s'est vouvoyé pendant toute une émission? C'est bizarre.
Ben, on peut se souhaiter que tout le monde se tutoie, sauf nous. et on peut souhaiter que la guerre s'arrête en Ukraine, vraiment. Que les 10 plaies d'Égypte s'arrêtent. Qu'on arrête les épidémies, les guerres, je sais pas, les gilets jaunes, je sais pas quoi.
On est à quel moment de l'humanité, là ?
Je pense qu'on est à un moment où on hésite à sauter. Alors, quand on hésite à sauter un cap, en fait, on a un comportement un peu violent, un peu chaotique. Mais je pense quand même qu'il faut prendre au sérieux ce qui arrive juste après la guerre, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Ouais.
Ariel Wiesman, merci d'avoir été avec nous. Je tenais à je vais tutoyer Ariel Wiesman, à te remercier, t'exprimer toute ma gratitude et mon admiration éternelle.
Merci.
De rien.
De rien.
Verveine. Underground.